présenter Tamara Kim-Vernick de l'Institut Pasteur de Paris. Tamara est chercheure à l'Institut Pasteur où elle coordonne une équipe d'anthropologie médicale et environnement. Elle coordonne aussi le réseau mondial Sonar Global. Voilà.
Je dois démarrer ou pas?
Ça marche?
Ok, très bien. Voilà.
Ok, Tamara.
Prochaine diapo. En fait, je vais parler aujourd'hui. Non. Dernière. Pardon. Le dernier. Aujourd'hui, de partage de données de sciences sociales pendant et après la recherche en phase de crise. J'avoue, ce n'est pas un sujet super éclatant, mais c'est important. Difficile à suivre les deux présentations passionnantes. Mais je pense que c'est une question que nous, en tant que chercheurs en sciences humaines et anthropologie, devraient aborder. Et de plus, je ne suis pas vraiment spécialiste de partage de données de la science ouverte. C'était mon application a commencé effectivement l'année passée avec un appel de Wellcome Trust. Et ils ont fait cet appel pour des cas d'études de partage de données lors et des épidémies et après des épidémies. Parce qu'ils voulaient aller au-delà des généralisations qui caractérisent actuellement une littérature sur le partage de données. Donc, j'ai co-coordonné un projet avec Sharon Abramowitz. Nous avons eu des contributions des anthropologues, des historiens, un épidémiologiste, et nous nous sommes focalisés sur Ebola, le partage de toutes sortes de données, Ebola en Afrique de l'Ouest, et l'épidémie de la fièvre jaune en Angola et République démocratique du Congo. Je vais effectivement survoler ces deux cas d'études dans la présentation parce que c'était un rapport de 150 pages, il faut publier et c'était assez complexe. Mais nos méthodes étaient bien sûr de faire une revue de la littérature, je pense que c'est plus de 300 ou 400 sources bibliographiques, ainsi que les entretiens. Nous avons mené des entretiens qualitatifs avec des différents acteurs dans ces épidémies et nous avons tiré puisé sur des entretiens qui ont été faits avant dans un projet Ebola 100 et Institut Pasteur Riposte Biomédicale. Donc, comme nous sommes des anthropologues, je pense qu'il faut un peu de conceptualisation. Je pense que si vous regardez une littérature sur le partage de données, les données sont plutôt conceptualisées en tant que propriété intellectuelle. Donc cela veut dire que ces données appartiennent à X et pour si Al-Mudena voudrait partager ces données, il faut avoir une sorte de contrat légal, un data sharing agreement. Mais à travers nos entretiens, nous avons tiré d'autres significations, d'autres conceptualisations que je pense sont également importantes. Tout d'abord, les données en tant que travail. Par exemple, ces données sont mon travail. Et donc, si je devrais partager avec vous, il faut que qu'il y ait un bénéfice pour moi pour les partager. Une deuxième signification, c'est plutôt les données en tant que parole. Moi, je suis sur le terrain, j'observe ces faits, je collecte des données autour, et il faut que vous preniez ces données et les diffusez parce que d'autres personnes devraient savoir ce qui se passe ici. Et une troisième, si je peux dire, conceptualisation ou signification, c'était, je vais essayer de prononcer, les biens inaliénables. Je tire un peu de l'anthropologue américaine Annette Wiener, qui a parlé des biens inaliénables en tant que des biens qui sont saturés de la puissance, saturés de l'histoire. Et donc, il faut faire circuler ces biens pour accumuler le pouvoir, mais en même temps, il y a un grand risque en les circulant que les biens soient perdues, détruites, volées, mal utilisées. Et donc, moi, en tant que détenteur de données, je dois utiliser les moyens sociaux pour négocier les rapports de confiance. Et je vais discuter brièvement la confiance plus tard. Donc, je pense que si on ne tient pas au courant des autres significations, je pense qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les données ne sont pas partagées. Donc, juste sur voler Ebola et les grands constats autour de partage de données pendant cette épidémie, je vais me focaliser surtout sur les données de sciences sociales. On s'est demandé, et je pense que beaucoup d'acteurs dans cette épidémie ont pensé que Ebola en Afrique de l'Ouest, c'était vraiment un tournant décisif pour le partage de données. Les données de mobilisation sociale étaient plusieurs, les données des analyses anthropologiques, les données de CAP, des focus groups, des engagements communautaires, ainsi de suite. Et surtout, sachant que cela a changé au cours de l'épidémie, le partage, surtout au début, était plutôt informel. Mais je pense qu'à la fin de cette épidémie, on pourrait dire que c'était vraiment une expérience, un premier partage de données et d'analyses anthropologiques faites par RAEE et aussi UNMER. Donc je pense que c'est vraiment un cas très important. Il y a eu également des difficultés de partage. Pendant la crise, il n'y avait pas de consensus concernant les méthodes, les considérations éthiques, les questions de confidentialité des informateurs, mais aussi des chercheurs africains qui ont couru un risque de reproche pour avoir reporté et partagé ces données. Il y avait des questions ce qui concerne les droits d'auteur. Et après l'épidémie, et ça c'est important, il y a eu un manque de financement pour standardiser, stocker, partager, effectivement partager ces données. Et là, plus tard, si vous voulez, je pourrais discuter l'expérience de Ebola 100 et Institut Pasteur. Quel changement après Ebola? Donc, la fièvre jaune en Angola et en RDC en 2016, on dirait, après cette expérience en Afrique de l'Ouest, que peut-être la situation a changé. Sachant que cette épidémie n'était pas si longue et pas si grande que l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest. Mais ceci dit, c'était la plus grande épidémie de la fièvre jaune depuis 1971, avec plus de 7000 cas suspects, presque 400 décès, Angola qui était vraiment le plus touché, avec la plupart de provinces et beaucoup de municipalités très touchées par cette épidémie. On a vu la transmission aux trois pays et Kinshasa même a été menacée. La réponse était surtout la vaccination et de loin moins important le contrôle des vecteurs. Et donc je voudrais juste signaler le dernier point, 30 millions de personnes vaccinées au cours de 2016. Je pense qu'on peut faire une comparaison, par exemple, avec l'épidémie actuelle au Kivu. 30 millions de personnes. Cela veut dire que... Cela veut dire qu'en fait, il y avait un effort très important de la mobilisation sociale. Il y avait effectivement, surtout en Angola, des campagnes de mobilisation sociale massives pour faire vacciner tant de personnes, mais la documentation est presque non existante et il n'y a pas eu de partage. Il y avait deux études de CAP, une qui était publiée et était très très critiquée, et globalement de cette épidémie, très peu de publications. Et j'ajoute ce récit, je ne vais pas lire, mais juste pour signaler que pourtant il y a eu, bon ça c'était un de nos entretiens, il y a eu une demande pour les données, les approches sciences sociales, les approches anthropologiques pendant cette épidémie. Donc pourquoi pas de partage? Je vais rajouter deux réflexions et peut-être un peu notre, encore survoler notre analyse. Le premier, c'était dit par un de nos informateurs qui était une autorité à l'OMS. Et lui, il a dit, bon, partage, analyse globale, ce sont des préoccupations des académiques. Pour la riposte à une épidémie, les pays n'ont aucun intérêt à cacher leurs données. Mais si c'est pour publier, ça c'est autre chose et ce n'est pas important. Deuxième personne, c'était un chercheur africain qui a travaillé à Angola et en RDC pour la riposte. Et il a dit, bon, je vais lire parce que c'était un récit qui m'a beaucoup frappé. Quand on a une superpuissance et un faible laboratoire, je ne suis pas une équipe très faible, on ne peut pas parler de sharing. Ça, c'est un abus de langage. Quand on ne partage rien, ou il donne et que les autres exploitent, ou il garde et que rien ne se fait. Mais sharing, ça veut dire que chacun a une capacité à faire quelque chose. C'est difficile pour moi d'entendre ce mot sharing. Ce n'est pas un sharing si c'est je donne ou je garde. Donc, je pense qu'il souligne vraiment une question extrêmement importante. Pourquoi pas de partage? Et surtout, je vais parler surtout de Angola. Il y avait un contrôle important exercé par le MINSA. Ça, c'était le ministère de la Santé en Angola, qui a vraiment imposé sa souveraineté politique. Il y a eu des revendications morales sur les données et aussi sur le travail des employés. Il y a eu également une question de confiance parce que Angola a partagé avec certains partenaires et pas des autres, et pas des autres qui étaient identifiés par l'OMS. Bon, il faut partager avec eux. Mais quand je regarde la littérature sur le partage de données, on parle toujours à confiance, 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 comme c'est un état, comme c'est une condition. Mais ce qu'on a vu en parlant avec des différents acteurs, c'était la confiance est une production historique et politique. Et si vous suivez le partage, je vais arriver. Bon, oui, merci. Angola a une très longue collaboration avec le Cuba Cuban Cooperation avec Afrique du Sud, avec MSF aussi et le CDC. Et donc, je pense que ce partage est vraiment noué par les liens historiques et politiques. Il y avait parfois des absences de procédures bien définies ou pour le partage, ou parfois des procédures trop rigides, une peur des conséquences économiques, et il y avait aussi la question de capacité. Donc, globalement, et donc je veux résumer juste un tout petit peu pour les sciences humaines, il y a des challenges pour le partage de données de sciences sociales, et surtout après la crise. Je pense que le partage de données et des publications sont très importants parce que, contre ce que l'autorité de l'OMS a dit, il y a des leçons à apprendre après une crise. Et ce n'est pas uniquement une préoccupation des académiques, mais il y a plusieurs problèmes. Il y a tout d'abord les inégalités de reconnaissance pour les chercheurs en LMIC. Il y a des obstacles techniques, les capacités de stockage et le partage de données non existantes. Et je vois qu'il y a un décalage entre les sciences sociales et les sciences biomédicales. Les virologues, par exemple, ils ont GitHub, virologica.org, ainsi de suite, mais en sciences sociales, nous n'avons rien. Je pense que peut-être on peut creuser un peu sur le modèle des histoires orales et le dépôt des transcriptions et des enregistrements aux bibliothèques. Mais il y a, au-delà de ça, des défis pour les chercheurs en sciences sociales. Les obligations morales pour le partage, les consensus pour les interprétations secondaires, problèmes de confidentialité et aussi la question de datification des expériences humaines. Donc, très rapidement, Sonar Global. Donc, vous avez entendu parler, c'est un réseau global composé de 11 partenaires en 9 pays. On est censé de créer un réseau global de chercheurs en sciences sociales. Donc, je ne vais pas lire parce que j'ai très peu de temps, mais je pense qu'on va en parler plus tard cet après-midi. Mais que pourrions-nous faire? Ce que moi, je voudrais proposer, c'est que peut-être on peut collaborer sur une journée d'études, quelques jours de journée d'études, de développer les directives pour le partage de données qualitatives en phase de crise, de discuter le mandat, quelles responsabilités pour le partage, avec qui, quand, sur quelles conditions, les processus, les utilisations de ces données qualitatives pendant et après des épidémies, la collecte, agrégation, standardisation et stockage, et surtout, je dirais, l'éthique. Les enjeux éthiques, identifier des enjeux éthiques, des qualités, des données qualitatives, ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est, encore une fois, ce n'est pas un sujet super éclatant, mais je pense que c'est très important que nous aussi, nous participons ensemble à une tendance vers une science ouverte. Donc, je voudrais rapidement remercier mes collaborateurs et le Wellcome Trust et aussi la Commission européenne qui finance Sonar Global. Merci.
Merci Tamara. Voilà, donc nous allons passer la parole.
Ah, qui l'avait ? C'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui ai la parole. Un commentaire brûlant. Dans les significations que tu décris aux données, à côté de paroles que je traduirais plutôt par témoignage, je pense qu'il y a une signification qui est la création. Quand on fait un entretien en anthropologie, c'est nous qui créons les conditions de la relation. Et l'entretien est, on n'a pas, c'est pas juste une parole qui se donne, c'est une interrelation dans un contexte que nous créons pour qu'il soit, quelque part, on crée la confiance aussi.
Oui, absolument.
Donc, je pense que quand tu parles de standardisation, c'est pas possible pour nous. Enfin, donc, jusqu'où il faut aller dans la standardisation? Et en plus de la question de la confidentialité, il y a cette question de qu'est-ce qu'on a de local, particulier, relationnel, qui fait un obstacle vraiment à la notion de données et à la notion de partage. Mais je suis d'accord pour te suivre dans cette démarche engagée et volontaire.
Oui, c'est vrai que, bon, je pense que dans la littérature et dans les discussions où j'ai participé, je pense qu'il tout, oui, data sharing, bon, c'est super. Mais je pense qu'il y a, des problèmes. Et qu'on ne peut pas contourner. Moi, j'ai également des doutes concernant la standardisation. Mais comment au moins nettoyer que pour que ça soit utilisable par d'autres utilisateurs. Ce n'est pas que tout le monde doit suivre les mêmes questions et on peut juste cocher des cases après. Je pense que les données anthropologiques, par exemple, ça ne marcherait pas.
Oui, merci Tamara pour ta communication. Moi, je reviens sur un aspect, parce que c'est un débat en ce moment, par exemple, à l'IRD, qui est très chaud sur le partage de données, donc et la mise en partage, justement, des données anthropologiques. Donc, il y a beaucoup ça bouge beaucoup sur cette question, et je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle, et que, donc, je pense que c'était important que tu nous fasses cette communication. Moi, j'ai deux questions. C'est sur la question de l'éthique, tu l'as abordée à la fin. Et là, on a un vrai problème, un problème éthique par rapport à nos données, mais aussi par rapport aux règles qui sont imposées par les comités d'éthique. Certains comités d'éthique en Afrique nous imposent de ne pas partager les données en dehors du programme de recherche sur lequel la vie éthique a été donnée. Donc, comment on compose avec ça? Et comment on compose aussi avec les accords de Nagoya, qui nous imposent aussi d'avoir des autorisations pour faire sortir certaines données sur du patrimoine naturel, par exemple, d'un pays. Donc là, je vois Almodena qui hoche la tête. Comment on va composer ce partage de données avec ces deux aspects?
Je pense que le partage de données, si je peux me contredire, bon, c'est pas une contradiction. Je pense que on peut pas partager des données juste comme ça, je pense qu'il faut prévoir en amont. Par exemple, ce que nous avons fait avec cette étude Ebola 100 Pasteur biomédical, c'était qu'on a proposé, on a fait le protocole, on a soumis le protocole à l'IRB et on a eu une notice d'information et une fiche de consentement que, en fait, on allait utiliser ou déposer les transcriptions, bien sûr nettoyées, avec l'accord de participants, avec le consentement éclairé du participant. Et donc, ça n'est pas jusqu'à ce moment arrivé, mais en fait, on a promis à chaque informateur que vous allez voir la transcription. Si vous décidez de ne pas participer, bon, il n'y a pas de souci. Si vous décidez avec une rédaction très importante, que vous pouvez déposer, c'est super. Donc, je pense qu'il faut bien.
Bon, on doit faire des réglages pour la présentation suivante qui sera en visio. Je propose qu'on arrête là les